Bien, bonjour, et je suis heureuse d'être parmi vous malgré la fatigue. Particulièrement heureuse d'ailleurs parce que j'ai moins souvent l'occasion d'intervenir par rapport à des collègues qui travaillent dans l'enseignement primaire, puisque bon nombre d'entre vous c'est le cas. Je connais plus l'enseignement secondaire et mes travaux portent plus sur ce point, même si ça m'est déjà arrivé. Deuxième préliminaire que je dirais, ma conférence, si je puis dire, sera peut-être un petit peu plus désordonnée que ce que je fais d'habitude, dans la mesure où j'ai eu un bref échange avec Frédéric Soja et Roland Goagou avant d'arriver là ici, et que ça m'a un peu perturbée. Certainement, il va falloir que je travaille encore plus, c'est-à-dire que j'ajuste mon propos à la situation en imaginant tout ce que vous avez déjà entendu, ce que vous avez pu intégrer, et faire en sorte que ce que je dise ne soit pas trop à la fois redondant ou en trop grande distance. Distorsion peut-être. Voilà, c'est le travail et on en reparlera. Donc, dans un premier temps, j'essayerai de présenter comment la sociologie s'est intéressée au travail enseignant. Ou plutôt, d'abord, vous verrez comment elle ne s'y est pas intéressée. Et d'essayer de comprendre pourquoi cette espèce de zones grises d'absence d'approche du travail enseignant. Dans un deuxième point, j'aborderai quelques résultats de travaux plus récents sur le travail enseignant, et en m'appuyant particulièrement sur mes propres travaux en tant que sociologue, en essayant de montrer quelques grandes tendances d'évolution de ce travail actuellement. Troisième temps, je discuterai une affirmation qui est souvent faite, et qui est faite même de la part des enseignants, comme en témoigne la dernière enquête de l'ADEPE, qui date de 2008 et qui porte sur le malaise enseignant. Et cette affirmation consiste à dire qu'il y a deux métiers différents, selon qu'on travaille dans un lycée lambda, on va dire, ou selon qu'on travaille en éducation prioritaire. Voilà. Et puis surtout, j'attends de vos remarques, discussions ensuite, la possibilité de développer peut-être tel ou tel point de façon plus précise. Donc, premier point. Comment se fait-il que le travail enseignant ait pendant si longtemps été absent des travaux sociologiques? Alors, cette affirmation est à la fois juste et en même temps, il faut un petit peu la nuancer. Alors, le premier à s'être intéressé, pourrait-on dire, à l'activité des enseignants, c'est notre grand-père à tous, sociologue français, Émile Durkheim, qui s'est préoccupé de savoir comment les enseignants pourraient prendre en compte l'évolution du curriculum. Alors, Durkheim se pose la question en 1902, quand il ouvre un nouveau cours à la Sorbonne, adressé aux futurs enseignants, à des agrégés, et Durkheim affirme la nécessité de leur formation pédagogique. Admettez que c'était assez original, et que ça le reste d'ailleurs, étrangement, de dire que même les agrégés ont besoin de formation pédagogique. Et il a regroupé ses cours dans un ouvrage qui s'appelle « L'évolution pédagogique en France », et dans lequel il explique que dans sa première leçon, il justifie pourquoi il fait un cours de pédagogie à ses futurs enseignants. Et il explique notamment que la formation doit servir aux enseignants à combler l'écart qu'il y a entre la réforme et la pratique des enseignants. Et il faut notamment combler cet écart parce qu'il y a une grande réforme en France qui est en cours, qui est la réforme de 1902, et qui consiste à, disons, minorer un peu la place des humanités et à insérer un enseignement des sciences, à lui donner une place qu'il n'avait pas jusqu'alors. Alors que jusqu'en 1902, c'était uniquement le latin et le grec qui dominaient l'enseignement, désormais, il y aura aussi des sciences. Et pour Durkheim, les enseignants ont... Il formule, disons, deux critiques à l'égard des enseignants. La première, c'est de dire qu'ils ne visent pas assez une formation globale de l'enseignant, que les enseignants n'ont pas assez dans l'idée qu'il faut qu'ils forment l'esprit, et ont trop dans la pratique le fait qu'ils forment à une discipline d'enseignement. Donc c'est une critique de la spécialisation disciplinaire des enseignants. Ça, c'est la première critique qu'il formule. La deuxième critique qu'il formule concerne ce qu'il appelle, ce qui s'appelle d'ailleurs, le misonéisme. Le misonéisme, c'est le goût immodéré du passé. Pour lui, les enseignants sont des amoureux du passé et qui sont plus dans la reproduction de l'existant plutôt que dans l'invention du nouveau. Donc, munis de cette réflexion, on voit que dès le départ, la sociologie qui s'intéresse à l'éducation prend le parti de la réforme, et en grossissant un peu le trait, je dirais contre le travail enseignant. Le travail enseignant est construit dès le départ comme un obstacle à la réforme. À l'époque, on ne parle pas encore de résistance au changement, bien sûr, ça viendra dans les années 80, mais déjà, il y a l'idée que le travail des enseignants est un obstacle à des réformes qui vont forcément dans le bon sens. Donc ça a été cette première étape qui met en jeu à la fois l'activité et la formation. Ça aussi, c'est un autre point intéressant à noter, le fait que dans la réflexion de Durkheim, il y a trois fils qui sont tenus ensemble, le fil de la réforme, le fil de la pratique de l'enseignant et le fil de la formation. Il faut une formation pédagogique, affirme-t-il. Comme vous le savez, Durkheim, naguère, a été suivi sur ce chemin. Et la sociologie a continué par la suite à peu s'intéresser au travail des enseignants. Pendant le XXe siècle, jusqu'aux années 60-70, la sociologie se préoccupait beaucoup plus d'enquêtes macro-sociologiques, fondées sur des enquêtes statistiques, dont l'INSEE ou l'INED étaient à l'origine, et les travaux de Bourdieu, de Boudon et d'autres ont reposé sur ces enquêtes macro-sociologiques. Ces enquêtes se situaient très loin de la classe. Ils se préoccupaient des flux d'élèves, de ce que devenaient les élèves entre leur origine sociale à l'entrée dans le système et ce qu'ils devenaient ensuite à la sortie. Et a été construit ainsi ce qu'on a qualifié ensuite une sorte de boîte noire. L'établissement, la classe sont devenus une boîte noire pour la sociologie et qui ne s'est guère intéressée à cette dimension. La sociologie critique a analysé de plus l'enseignement comme un outil au service de la domination. Bon, vous connaissez les thèses de Bourdieu sur la reproduction. Et dans cette construction théorique, les enseignants sont des agents, au mieux inconscients, du fait qu'ils participent d'une entreprise de reproduction des inégalités sociales et d'une domination d'une classe sur une autre. Donc ça ne laisse pas beaucoup de place, là aussi, à ce qui se passe dans la classe, dans le réel, puisque la violence symbolique dont parle Bourdieu se fait à travers l'enseignement des disciplines, à travers le langage. Bourdieu met beaucoup l'accent sur la question du langage aussi. Et les pratiques réelles ne sont pas prises en compte, de fait. Les enseignants, là aussi, sont vus comme des empêcheurs, en quelque sorte, de construire une école plus égalitaire, puisqu'ils sont des agents plus ou moins inconscients. Dans le cas de cette sociologie, on voit qu'il y a une posture de surplomb du sociologue, qui regarde de l'extérieur et d'en haut la situation dans une perspective de dévoilement d'une réalité dont les agents seraient inconscients. L'autre point, c'est que c'est une sociologie critique au sens de dénonciation. C'est une sociologie qui dénonce les inégalités produites par le système éducatif. Et on peut dire effectivement que c'est une sociologie de combat, ce que Bourdieu assume tout à fait à cette époque. Ensuite, Bourdieu s'est intéressé à d'autres champs que l'éducation, et ce n'est pas forcément lui qui a poursuivi son œuvre sur les questions d'éducation. Il y a est apparu plutôt dans les années fin des années 70 quelques premières enquêtes sur ce qui se passait dans les classes de la part notamment de Viviane Isambert-Jamati qui a étudié la façon d'enseigner le français par exemple selon l'origine sociale des enseignants, qui a étudié aussi le poids des caractéristiques sociales des élèves sur la définition des contenus d'enseignement par les enseignants. Donc deux approches, mais qui étaient vraiment atypiques dans la sociologie française à l'époque. La première modification et le premier moment où les sociologues se sont plus emparés de la question du quotidien, j'ai envie de dire, de la classe et des établissements, cette étape est arrivée à partir des grandes lois de décentralisation. Pourquoi ? Parce que avec la décentralisation, avec une certaine autonomie donnée aux établissements, d'un seul coup, on ne pouvait plus se contenter des enquêtes macrosociales. L'établissement lui-même devenait un objet d'étude qui prenait du sens. Il n'y avait plus l'idée selon laquelle au même moment il se passait à peu près la même chose dans tous les établissements, même si on savait que ce n'était pas tout à fait vrai. Mais là, il faut aller voir comment chaque établissement négocie son autonomie, entre en relation avec son environnement, comme l'exigent les lois de décentralisation. Donc c'est à ce moment-là qu'on a, comme on dit, ouvert la boîte noire. On a ouvert la boîte noire en allant voir qu'est-ce qui se passait dans les établissements. Et dans cette deuxième étape, les premiers travaux ont eu lieu particulièrement dans l'éducation prioritaire. Dans les ZEP, à l'époque, c'était les zones d'éducation prioritaire qui avaient été créées au début des années 80, donc. Et les premières enquêtes, particulièrement d'Elisabeth Bautier et de Jean-Yves Rochex, ont porté sur l'éducation prioritaire. Ensuite, Agnès Van Zanten, Martine Kérubi se sont préoccupés aussi des établissements scolaires dans l'éducation prioritaire. Et de ces enquêtes, il ressort premièrement une centration sur le rapport au savoir des élèves. Donc c'est plutôt sur les élèves l'attention s'est focalisée. Et deuxièmement, une autre idée s'est imposée, c'est l'importance des relations entre l'environnement et l'établissement pour comprendre comment se passe l'enseignement. Avec, chez Agnès Van Zanten notamment, l'idée qu'il y a des stratégies locales particulières qui ont des effets, y compris sur les pratiques d'enseignement, et elle pose la question de savoir s'il n'y a pas deux métiers, justement, un qui serait plus proprement lié aux conditions de l'éducation prioritaire. Au total, suite à ces années, début des années 80, ce qui ressort de ces enquêtes, c'est le fait que travailler pour des enseignants, c'est pénible. On peut dire qu'il y a déjà eu un progrès par rapport à ce qui existait auparavant. C'est que là, il y a une prise de conscience et un travail sociologique qui rend compte de la difficulté du travail enseignant. D'un autre côté, et ça va être aussi toute une série de travaux qui portent sur les établissements d'éducation prioritaire, il y a une vision du travail enseignant qui est polarisée autour de deux pôles. L'un, ce serait les difficultés, la panne, comme on dirait dans le milieu industriel, et l'autre, c'est l'innovation, l'exception. Donc il y a une vision du travail enseignant qui oscille un peu entre ces deux polarités. Les enseignants sont tour à tour décrits comme en difficulté, comme étant vraiment face à des difficultés liées au milieu de travail, mais aussi comme ayant des difficultés à adapter leur pratique. Des difficultés à adapter leur pratique par manque de formation, dit-on, entendez par incompétence en partie. Et l'autre polarité, c'est que parmi ces enseignants plus ou moins compétents, il y a des héros qui innovent, qui inventent de nouvelles pratiques. Donc on oscille un peu entre ces deux visions des enseignants et de leur travail. Les années 90, avec le projet de professionnalisation des enseignants, avec la création, qui s'est traduit plutôt par la création des IUFM, ont vu se développer d'autres travaux sur le travail enseignant, et ces travaux qui sont venus particulièrement d'enseignants-chercheurs travaillant en IUFM. Alors, dans cette période, je voudrais insister sur le fait que le projet de professionnalisation a été un projet politique. Ça n'a pas été une revendication des enseignants. Et ce projet politique de professionnalisation, il est arrivé après une série de rapports, d'enquêtes, qui ont montré qu'il y avait un gros problème d'échec scolaire en France. Et l'idée a été que, en professionnalisant les enseignants, on allait améliorer les résultats du système éducatif. Donc les enquêtes qui ont eu lieu à ce moment-là ont porté sur les pratiques. Le terme utilisé à cette époque-là, c'était les pratiques enseignantes, avec notamment les travaux de Marguerite Alté, que vous connaissez bien, mais pas seulement. Il y a Marguerite Alté qui n'est pas à proprement parler sociologue, mais qui fait des travaux qui utilisent aussi des connaissances sociologiques. Mais il y a aussi des travaux de François Dubé ou de Marc Tuccelli qui se sont intéressés au travail des enseignants et qui ont mis en valeur, ils sont intéressés beaucoup aux élèves d'ailleurs, hein, mais je ne prends en compte que ce qu'ils ont dit sur les enseignants, ils ont mis en valeur le rôle des savoirs d'expérience. Des savoirs d'expérience, thème qui avait été aussi largement travaillé par d'autres secteurs, je pense à Marc Durand particulièrement. Et leur vision du travail enseignant, ils proposent deux orientations en fait. D'une part, c'est le fait que le travail des enseignants est plus proche de l'art que de l'artisanat. Alors pourquoi disent-ils que le travail enseignant est plus proche de l'art ? Parce qu'il y a une dimension créative. Parce que le travail enseignant ne peut pas être du côté de l'application des consignes, comme dans un travail éventuellement plus technique. Donc on voit là aussi l'intégration dans la sociologie de courants plus interactionnistes et moins de la sociologie structurale comme Bourdieu l'a pratiqué, mais de courants plus interactionnistes, plus sensibles et plus attentifs à ce qui se passe dans la situation, dans les interactions, et qui commencent à partir, en s'inspirant d'ailleurs de travaux anglo-saxons souvent, qui s'intéressent à ce qui se passe dans la classe et dans les interactions entre les élèves et les enseignants. De ces travaux ressort une image beaucoup plus composite du travail enseignant. Donc on est dans les années 90, on sort de la polarité dont je parlais tout à l'heure, entre victime et héros, mais on a une vision plus composite du travail enseignant. On peut dire que c'est à ce moment-là qu'on est sorti un peu de l'ère du soupçon, ces enseignants qui font de la résistance systématique. On est sorti progressivement de la commisération, oh les pauvres enseignants qui s'en voient tellement, et par contre on voit émerger de façon très très forte le rôle du contexte, le rôle de l'environnement de travail, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'activité, avec l'idée qu'il y a une singularité du travail qu'il faut prendre en compte si on veut comprendre de quoi il retourne. Dans la même période, fin des années 90, j'ai envie de dire, le travail enseignant est venu à la sociologie de l'extérieur de la sociologie. Je voudrais m'expliquer là-dessus. Il y a en France une sociologie du travail qui a pendant des années beaucoup étudié le travail des ouvriers, mais s'est très peu intéressée à d'autres professions. Il y a notamment tous les travaux de Friedman qui ont déconstruit le taylorisme, notamment son ouvrage « Le travail en miettes » que vous connaissez sans doute. Et il s'est construit une sociologie du travail qui s'est centrée beaucoup sur les professions et dans l'éducation aussi, l'analyse des professions. Alors des gens comme Bourdoncle ont été des acteurs de cette sociologie de la profession enseignante particulièrement, et du côté de ceux qui ne sont pas enseignants, il y avait toute une tradition de sociologie du travail. Je dis que la préoccupation de l'activité est venue d'ailleurs, car c'est dans les années 90, dans la deuxième moitié des années 90, que les travaux de l'ergonomie française, qui, comme vous le savez, ont permis la distinction entre travail prescrit et travail réel, que les travaux de la psychodynamique du travail, de la clinique de l'activité, qui ont montré à quel point la subjectivité était convoquée dans le travail, que donc tous ces travaux ont été pris en compte progressivement par la sociologie du travail, qui s'est aussi intéressée à d'autres champs professionnels que le travail ouvrier. Et je me situe dans ce courant donc de sociologues qui se nourrissent d'autres travaux que ceux proprement de la sociologie. Il faut rappeler aussi qu'à l'époque, il y avait un grand débat en France sur la fin du travail. Est-on arrivé à la fin, F-I-N, du travail ? D'autres répondant, il y a plutôt une fin, F-A-I-M, du travail, même s'ils ne le disent pas comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un comme Dominique Méda pensait qu'il y avait on arrivait à la fin du travail, qu'il y avait d'autres formes de sociabilité ou par rapport à la production qui allait se construire, alors que quelqu'un comme Christophe Dejour affirme que le travail est central, et Yves Clos, du côté de la clinique de l'activité, ajoute anthropologiquement, c'est autour du travail que se construit l'identité et l'humanité de l'homme. Donc on voit bien ce débat entre le travail devient-il périphérique ou le travail devient-il central. Ces approches du travail sont entrées donc dans l'éducation. Vous avez eu hier deux exemples remarquables avec Frédéric Soja et Roland Goagou, ce matin pardon, et Roland Goagou qui ont montré comment ils avaient intégré ces travaux. Demain il y aura Lucria qui aussi à sa façon intègre une dimension, c'est une partie de ces travaux. Du côté d'autres sociologues, il y a aussi Anne Barrère qui a étudié le travail des enseignants et qui a montré, l'originalité des travaux d'Anne Barrère a été particulièrement de faire émerger des dimensions du travail qui n'avaient pas été étudiées jusqu'à présent, notamment le travail en dehors de la classe, le travail à la maison, tout ce qui se passe en dehors de la classe. Pour ma part, avec mon collègue Christophe Hellou, nous avons étudié les difficultés au travail, la souffrance au travail. Moi, j'ai étudié aussi le travail enseignant en lycée professionnel, plus particulièrement. Et tous ces travaux ont permis, avec d'autres, je ne prétends pas du tout à être exhaustive, ont permis que de rendre compte de la complexité du travail enseignant. Et je trouve intéressant de voir qu'au moment où il y a un problème de visibilité du travail enseignant, je dirais même plutôt qu'il y a un problème d'invisibilité du travail enseignant, puisque dans le sens commun, les enseignants travaillent quand ils sont en face des élèves. Ce sens commun selon lequel les enseignants travaillent uniquement quand ils sont avec les élèves a été renforcé par une certaine conception de la défense du métier, notamment par l'action syndicale qui a pris pour axe de défense la défense du corps professionnel, la défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs que constituent les enseignants, mais par contre a largement ignoré le métier. Le métier dans sa réalisation pratique, surtout dans le secondaire. Or, défendre la définition du service comme étant les 18 heures ou les 21 heures, peu importe, ou les 26 heures, point, ça veut dire empêcher de rendre visible tout le reste. Et c'est en cela, je pense, que cela a été bien sûr pertinent, cette défense, sa raison d'être, sa légitimité, mais on en voit les limites actuellement où cette défense rencontre le sens commun qui est de dire que les enseignants ne travaillent que lorsqu'ils sont en face des élèves. Donc il y a un travail à faire, à la fois du côté des chercheurs, mais sans doute aussi du côté des enseignants, pour rendre visible ce qu'est le travail enseignant. Et quand on regarde l'histoire sociale française et étrangère d'ailleurs, on voit bien que les métiers qui se sont renforcés, ce sont ceux qui ont su rendre visible leur travail. Donc dans cette approche plus complexe du travail enseignant, qu'est-ce qu'il en ressort ? Alors, il en ressort tout d'abord que le travail enseignant, et c'est le deuxième point que j'aborde maintenant, les points forts sur qu'est-ce qu'on peut dire actuellement du travail enseignant à partir d'une approche sociologique, que ce travail enseignant est exercé par une population qui s'est modifiée. Elle s'est modifiée sociologiquement, à savoir que, surtout dans l'enseignement primaire, l'origine sociale des enseignants est beaucoup plus, ce sont donc beaucoup plus les couches moyennes qu'auparavant. Ça, c'est la première grande tendance. Deuxième tendance, c'est une féminisation toujours accrue. Or, vous savez que dans tous les métiers, quand il y a féminisation, il y a dégradation des conditions de salaire et d'exercice. C'est triste, mais c'est la réalité. Troisième tendance, c'est que c'est un métier dans lequel les professionnels sont de plus en plus qualifiés. Un métier dans lequel les enseignants sont de plus en plus qualifiés, et en disant ça, on voit bien que si on regarde l'évolution, par contre, de salariale de la profession par rapport à l'évolution générale des travailleurs qui ont le même niveau de qualification, les enseignants sont bien en dessous des autres travailleurs qui ont une même qualification, même si on prend en compte les, entre guillemets, privilèges dont ils seraient bénéficiaires, en prenant en compte les privilèges dont sont bénéficiaires également les autres salariés. Donc on a un groupe professionnel. Alors oui, j'ai fait l'impasse sur tout le débat qu'il y a eu dans la sociologie pour savoir si les enseignants étaient une profession, une demi-profession, un quart profession. Parce que bon, à vrai dire, je vois pas trop l'intérêt de ce débat. Surtout que ça n'apprend rien sur le travail réel. Par contre, ça nous apprend quelque chose sur la difficulté à positionner ce groupe professionnel. Donc un groupe professionnel qui a vu sa composition et sa qualité évoluer. Deuxième apport, c'est le fait que le travail enseignant, du fait de la prescription, et cela est valable en Europe, là je vous renvoie aux travaux de Christian Marois qui a fait cette étude au niveau européen, le travail enseignant est caractérisé désormais par une diversification des tâches, qui est plus ou moins grande selon les pays. Et cette diversification des tâches aboutit à une forme plutôt polymorphe du travail enseignant. Le noyau, le cœur du métier a tendance à être recouvert ou à connaître des expansions, des excroissances, diraient certains, qui le font ressembler au total plutôt à une forme bourgeonnante, si on veut avoir une image du métier tel qu'il est maintenant. Mais dans la forme bourgeonnante, on voit bien qu'on perd un peu le cœur du métier. On ne sait plus bien où il est. Hein. Il est recouvert ou il a des axes croissance qui tendent à relativiser la place du cœur du métier et à faire se poser la question de quel est ce cœur du métier. Alors là aussi, c'est une évolution qui n'est pas propre à l'enseignement. À la fois, l'intensification du travail, qui est le résultat de la multiplication des tâches, et la tendance à une plus grande polyvalence du travail est le propre de tous les métiers. Contrairement à ce que pensent souvent les enseignants, qui pensent que souvent c'est très spécifique, non, en fait, il y a vraiment une évolution commune à des métiers très très différents et qui connaissent cette même évolution. Autre évolution commune, c'est le fait que de transformer un mode de commandement vertical par un mode de commandement qui est plutôt managérial et par projet. Alors, deux mots d'explication là-dessus. En passant d'une centralisation toute jacobine et républicaine à une conception décentralisée de l'éducation, qui est restée d'ailleurs tout aussi républicaine, mais moins jacobine, l'idée était qu'il fallait permettre aux initiatives locales, à l'énergie en quelque sorte des acteurs, de compenser ce qui ne pouvait pas être réglé au niveau national. Particulièrement aussi parce qu'il y avait des difficultés à se mettre d'accord au niveau national sur qu'est-ce que c'était qu'une école juste. Comment réaliser cette égalité des chances qui est dans la bouche de tous les responsables politiques. Le pari fait de donner plus de pouvoir au local est allé de pair avec l'idée qu'il fallait trouver un nouveau mode de régulation. La régulation ne pouvait plus se passer de façon uniquement verticale, même si elle continue à exister, mais il fallait trouver localement un mode de régulation. Le mode de régulation qui a été imaginé dans les années 80, ça a été le projet. 1989, dans la loi est inscrit l'obligation, dans toutes les écoles, dans tous les collèges et lycées, d'élaborer un projet. Le pari était fait aussi qu'il serait plus facile de se mettre d'accord au niveau local et que ce serait mieux en adéquation avec les besoins locaux de la population locale. Bon. On sait que ce pari a largement échoué. Ce pari a largement échoué dans la mesure où il n'est pas forcément toujours plus facile de se mettre d'accord au niveau local qu'au plan national. Il a également échoué sans doute pour d'autres raisons, que je ne vais pas étudier là. Par contre, ce sur quoi je voudrais insister, c'est le fait que la logique de projet implique aussi une autre conception du travail, qui s'est traduite dans les prescriptions. La logique de projet fait que dans un projet, il n'y a plus d'hiérarchie. Tout le monde contribue au projet en fonction de ses compétences. Donc on a vu aussi émerger le thème des compétences qui sont rattachées à l'individu, qui ne sont pas le propre d'un statut ou quoi que ce soit, chacun a ou n'a pas telle ou telle compétence. Dans ce cadre-là, chacun est sommé et convoqué à s'investir dans le projet pour faire réussir les élèves, puisque c'est ça le but de l'opération. Il y a donc prescrit une grande autonomie des acteurs. Mais cette autonomie prescrite, dans le fait, elle est largement empêchée. Et cela va être une source de tension qu'on peut observer actuellement dans le travail enseignant, cette tension entre travail prescrit, prescription de l'autonomie, et empêchement de cette même autonomie. La prescription de l'autonomie fait que l'individu est sommé de trouver, de construire lui-même ses propres points de repère, ses propres règles, ses propres ajustements, ses propres arbitrages face aux dilemmes qu'il rencontre. Donc on voit que l'individu est plus convoqué dans le travail qu'auparavant. Cela repose en bonne partie sur des compétences personnelles et de plus en plus liées à des caractéristiques, à des qualités personnelles. Ce qui nous explique pourquoi il y a un tel sentiment d'usure, de fatigue chez les enseignants, souvent, dans la mesure où le métier collectivement et où les collectifs de travail plus limités localement sont souvent absents, cela repose beaucoup plus sur l'individu. Un individu qui est censé faire face aux difficultés qu'il rencontre. Si on met ensemble ces deux évolutions, la première, intensification du travail, multiplication de tâches diverses, la deuxième, logique de projet, appel à l'individu et à ses capacités, on comprend que une des difficultés dont les enseignants se plaignent actuellement beaucoup est une surcharge qu'ils ressentent. Cette surcharge, elle a deux dimensions. Elle a à la fois une dimension liée à la tâche, à la prescription. Effectivement, il y a une surcharge de tâches, une multiplication de tâches à faire. Mais cette surcharge, elle est aussi mentale. C'est-à-dire que la préoccupation liée à la réalisation des tâches, comme elle repose de plus en plus sur l'engagement de l'individu, elle met l'individu au premier plan. Cela est accru par le fait que le public qu'ont les enseignants s'est beaucoup diversifié. La connivence dont parlait Bourdieu entre les héritiers et les enseignants existe de plus en plus rarement. Le public élève est de plus en plus assez éloigné des codes scolaires, voire du fait d'être persuadé qu'il faut entrer dans ces codes scolaires. Les enseignants sont donc contraints, et c'est ce que nous avons pu constater dans notre dernière enquête, de faire un travail extrêmement lourd, pénible, usant, de ce que nous avons appelé un travail d'intéressement des élèves. Ce travail d'intéressement des élèves, il consiste pour les enseignants très concrètement à se prendre la tête avant le cours, avant la rencontre avec les élèves, pour imaginer quel dispositif, quelle image, quel support, quel texte pourrait bien servir à intéresser les élèves à ce qu'ils vont leur enseigner. Et ce travail d'intéressement, en plus, il échoue presque tout le temps. Il échoue presque tout le temps au niveau où l'avaient imaginé les enseignants. Il n'échoue pas, bien sûr, dans le réel, presque tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un décalage entre la planification qui est faite de ce travail d'intéressement et sa réalité effective. Donc, surcharge de tâches, surcharge mentale, travail d'intéressement qui est largement à anticiper, mais qui poursuit aussi après la classe. Ces éléments contribuent à construire une porosité entre le travail, le moment d'activité professionnelle et le moment d'activité personnelle, privée, qui est plus grand. Cette porosité est elle-même source de difficultés, voire source de souffrance au travail chez certains enseignants, et particulièrement quand ils ont un public élève qui est particulièrement éloigné des codes scolaires, et qu'il faut donc intéresser de plus loin. Un autre point sur lequel je voudrais évoquer aussi dans l'évolution du travail enseignant, ou ce que nous en percevons en tant que sociologue, c'est la question du rendre compte et de la justification. Les enseignants ont à la fois l'impression d'être en permanence jugés, qu'on leur demande en permanence de se justifier, de justifier leur action, et en même temps, ils dénient tous les jugements socialement construits. Ce qui est source de difficultés, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Donc, d'être en permanence jugé. Oui, car la presse regorge de jugements souvent peu amènes sur les enseignants. Oui, parce que quand il y a des tests internationaux, des enquêtes internationales, PISA, PIRLS, l'enquête, les médias là aussi s'en font largement l'écho et relaient essentiellement les points négatifs de ces enquêtes. Oui, ils se sentent jugés car l'institution elle-même et les représentants, les responsables politiques pointent volontiers du doigt les enseignants, que ce soit pour leur absentéisme, il en est question, que ce soit pour leur résistance au changement, que ce soit pour leur inappétence à faire un effort, et le succès relatif des heures supplémentaires en est un exemple. D'un autre côté, et ça entre en contradiction avec ce que je viens de dire, l'Observatoire de la fonction publique, qui fait des enquêtes régulières sur la perception de la population française de sa fonction publique, fonction publique par fonction publique, montre que les enseignants sont ceux qui sont le mieux perçus avec les postiers. Donc il y a à la fois beaucoup de sympathie, on pourrait dire, de la part de la population par rapport aux enseignants, alors même qu'il y a une image moyenne, surtout dans les médias, qui n'est pas forcément positive. Si on se rapproche maintenant du local, les enseignants sont confrontés à des parents de plus en plus présents, pas toujours bien sûr, et surtout pas partout. Mais la tendance est à la présence des parents d'élèves dans l'école, et qui a d'ailleurs été souhaitée institutionnellement depuis les années 70, et progressivement il y a plus de possibilités aux parents qui ont été données pour qu'ils puissent donner leur mot, intervenir, là aussi la logique de projet incluait ça. Le problème c'est que les enseignants sont face à des parents qui ont des attentes extrêmement contradictoires. Vous avez les parents qui, depuis la maternelle, programment polytechnique pour leur enfant, et puis ceux qui attendent surtout que l'école rende leur enfant heureux, leur permette de s'épanouir, et en tous les cas n'ont pas une perspective utilitariste identique. Mais quand on est enseignant, on doit justifier son action face aux deux parents. Pourquoi avez-vous fait ci? Pourquoi avez-vous pris telle décision? Pourquoi étudiez-vous ceci et pas cela? Mais vous en êtes que là dans le programme? Pourquoi avez-vous puni? Tout ça. Donc, une nécessité de justifier son action qui se trouve dans plusieurs registres de justification, dans plusieurs logiques. Et ces logiques correspondent à des conceptions de l'école et correspondent aussi à la conception d'une école juste. Pour le parent qui attend surtout que l'école permette l'épanouissement de son enfant, il n'a pas la même conception de ce qu'est une école juste que le parent qui attend qu'on prépare son bambin aux classes prépa. Donc il y a là une difficulté à parler dans plusieurs logiques, dans plusieurs registres de langue souvent, et face à cette difficulté, qu'est-ce qui pourrait soutenir les enseignants? Ce qui peut les soutenir, ou qui pourrait surtout mieux les soutenir, c'est un, le métier, un métier qui a des choses à dire sur pourquoi j'agis comme ci et comme ça, qui l'a construit historiquement, et deux, sur une institution qui devrait avoir aussi un projet clair en la matière et qui pourrait soutenir les enseignants qui agissent dans ce sens-là. Donc ce besoin de se justifier rend la vie difficile, la vie professionnelle difficile, pas seulement parce qu'il y a un besoin de se justifier, mais parce qu'il y a des conceptions concurrentes de l'école juste et parce qu'il y a un manque de clarté, de soutien, d'un manque de clarté sur les objectifs de l'école, sur ses missions, et de soutien de l'institution à l'égard des enseignants. Face à ces évaluations, les enseignants ont la plupart du temps une réaction complètement défensive et de déni. De déni de la compétence des autres à juger de leur activité. Par exemple, il a été montré que les enseignants faisaient très peu d'usage des résultats des enquêtes internationales, pour lesquelles ils ont beaucoup de mal à voir le lien avec leurs pratiques concrètes. Alors parfois, il y a qu'il s'agisse des inspecteurs ou des formateurs qui arrivent à travailler avec eux sur ces questions, mais spontanément, on ne le voit pas, en tous les cas, dans les enquêtes qui ont lieu à ce sujet, on ne voit pas de pratiques vraiment référées à ces enquêtes, qu'elles soient nationales ou internationales. Autre source de jugement, l'inspection. Et là, l'inspection, qu'il s'agisse du primaire ou du secondaire, plus dans le secondaire que dans le primaire, mais pas beaucoup plus finalement, l'inspection est jugée pas qualifiée pour juger du travail enseignant. L'inspection est toujours perçue comme une épreuve, alors plus ou moins réussie, mais c'est une épreuve. Et pourquoi n'est-elle pas jugée qualifiée? Alors dans le meilleur des cas, ça a donné lieu à un échange que les enseignants ont apprécié, mais même dans ce cas-là, ils estiment que les inspecteurs ont jugé la mise en scène qu'ils ont faite à l'occasion de l'inspection, mais qu'ils n'ont pas accès au quotidien du travail et que même parfois les critères de jugement que les inspecteurs utilisent ne peuvent pas prendre en compte les spécificités du public, par exemple, ou de l'environnement du travail des enseignants. Je ne juge pas du tout de ces propos, mais ils nous renseignent sur le fait que pour les enseignants, ceux qui seraient normalement dans l'institution compétents pour leur apporter un jugement d'utilité, et je pense que vous avez évoqué ça ce matin, non ? Le jugement d'utilité, non ? Alors, En deux mots, pour la reconnaissance du travail, Christophe Dejour distingue deux types de jugement. Un jugement d'utilité, c'est le jugement qui est posé par le supérieur hiérarchique. Alors pour les enseignants, ça correspond à l'inspecteur ou au chef d'établissement pour le secondaire, et voire le ministre, qui consiste à dire, en gros, vous avez bien travaillé, vous avez fait ce qu'on vous demandait de faire, vous avez atteint les objectifs qu'on vous avait fixés. Et puis il y a un autre jugement qui est le jugement de beauté qui, lui, est porté par les collègues. C'est un jugement qui est porté entre pairs, P-A-I-R-S, et qui consiste à dire non seulement tu as bien fait ce qu'on nous demande de faire, non seulement tu travailles selon les règles du métier, mais en plus de ça, tu le fais d'une façon qui t'est toute personnelle et qui est belle. Et qui est dans cette façon inventive dans laquelle tu mets le plus de toi, sans doute, on retrouve le métier et ça enrichit notre conception du métier, pour dire rapidement les choses. Donc, l'évaluation par l'inspection devrait apporter le jugement de beauté, le jugement d'utilité. Or, les enseignants estiment, à tort ou à raison, qu'il n'est pas valable. Quand on leur pose la question du jugement émis par les directions, là, c'est encore pire. De toute façon, le principal, il n'est pas de ma discipline, il n'y connaît rien, il ne sait pas ce qui se passe dans ma classe. Et puis, s'il va cocher la case rayonnement, ça n'a pas de sens. Donc, il n'y a pas de critères de jugement qui leur paraissent fiables. Donc, les enseignants sont dans la situation où ils se sentent en permanence jugés, confrontés à des évaluations qu'ils refusent finalement, que leur reste-t-il pour juger leur travail? Il leur reste l'idéal du travail. Et l'idéal est un tyran terrible. Car face à l'idéal, on est toujours minable. Quand j'imagine comment je pourrais être dans l'idéal et que je regarde ce que je fais dans le réel, franchement, je ne me trouve pas terrible. Donc c'est pour ça que cette difficulté face à l'évaluation me paraît à la fois caractéristique de l'évolution du métier et une des sources de difficultés particulièrement grandes. Elle est caractéristique aussi du fait que les prescriptions posées nationalement doivent être traduites par les enseignants et que ce travail de traduction de la prescription, qui est long, qui passe par des intermédiaires différents, là, bon, si ça vous intéresse, on pourra en reparler, qui se traduit par une adaptation de la prescription au local, à l'environnement de travail, qui est un travail d'interprétation, d'essais, erreurs, qui dure longtemps. Quand on a fait notre enquête sur la mise en place des PPCP, 4 ans après, ce n'était pas stabilisé encore dans les établissements. Il y avait encore des essais, et d'ailleurs, ça montre bien que le travail des enseignants ne cesse d'évoluer. Et nous avons proposé un modèle de changement du travail enseignant à partir du constat que nous avons fait, selon lequel le modèle de changement était le changement dans la continuité. Et ce modèle de changement que nous avons observé, le changement dans la continuité, au jour le jour, au quotidien, va à l'encontre d'une conception de l'introduction du changement dans l'institution. Depuis un certain nombre d'années, l'idée d'introduire le changement dans l'institution par l'extérieur, Ivor Goodson formule très bien ça, il explique cela, ça a été un choix, et qui n'est pas propre à la France, selon lequel le milieu enseignant était trop résistant à certaines réformes et qu'il fallait en gros le contourner, en lui imposant par l'extérieur un certain nombre de réformes qui étaient censées rendre plus performant le système éducatif. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit au bout de 20 ans de ces réformes, c'est que ce modèle du changement par l'extérieur repose sur un modèle du changement selon la bascule. Où on bascule dans le changement, où on est dans la résistance au changement, en gros, où on est dans la répétition et dans le misonéisme. Or, ce que nous apprennent les travaux faits dernièrement, particulièrement en sociologie, c'est que le modèle du changement dans la continuité ne va pas avec le modèle du changement par l'extérieur sur le mode de la bascule. Bien sûr que du coup, vouloir utiliser essentiellement le modèle de changement par l'extérieur provoque des stratégies défensives de la part des enseignants. Des stratégies défensives qui se font parfois à l'encontre des élèves ou des parents, et surtout qui sont négatifs pour les enseignants eux-mêmes, on pourra en reparler. Bon, il y a d'autres éléments d'évolution du travail enseignant, je vais m'en tenir là pour pas être trop longue. Et puis le dernier point que je voudrais aborder, c'est la question des deux métiers. Deux métiers, alors en effet, comme je vous le disais dans l'enquête récente de l'ADEP, les enseignants disent majoritairement il y a deux métiers selon où on enseigne, si on est dans une zone difficile ou ailleurs. Alors en fait, sans rentrer trop dans le détail, ce que je peux dire, c'est que cette théorie des deux métiers rend compte de l'intensité, mais pas de la qualité. On n'est pas des caractéristiques, quoi. Alors, je vais expliquer un peu pourquoi. Ce que j'ai dit sur les principales difficultés des enseignants, la question de l'intéressement des élèves, la question de mettre de soi dans le travail, d'inventer des solutions qui ne sont pas données par la prescription, de faire ce travail d'ajustement, de traduction, la question de construire les situations de façon à ce qu'elles tiennent. Énormément d'énergie des enseignants passe à cette construction de situation. Tenir. Car comme ils le disent très bien, on ne sait jamais d'une heure à l'autre ce que ça va donner. Une heure peut très bien se passer, la suivante peut mal se passer. Face à cette incertitude, ils mettent énormément d'énergie pour faire tenir les situations et eux-mêmes pour tenir aussi. Ces caractéristiques-là se retrouvent dans tous les types d'établissements. Alors que nous étions partis dans une de nos dernières enquêtes sur l'idée des deux métiers, nous avons dû renoncer à cette hypothèse. Car en fait, l'enquête montrait, après plus de 100 entretiens avec des enseignants, une immersion d'une année complète dans cet établissement, montrait que non, il y avait les mêmes types de problèmes. Par contre, il est vrai qu'ils ne sont pas vécus de la même façon, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vécus et l'expérience n'est pas faite avec la même intensité. C'est-à-dire que quand je parlais tout à l'heure de la question de l'intéressement des élèves, entre intéresser des élèves à la Martinière et intéresser des élèves à Vaux-en-Velin, si on reste dans le contexte lyonnais, disons qu'il y a un écart qui n'est pas le même. Mais le problème, et nous avons été nous-mêmes très surpris de rencontrer des enseignants de classe prépa qui spontanément nous disaient leur difficulté à intéresser les élèves. Donc il y a le même type de problème, mais qui n'est pas vécu avec la même, qui n'a pas la même intensité. L'autre élément, c'est que les mêmes types de problèmes ne donnent pas lieu aux mêmes difficultés chez les enseignants. Tout d'abord, le public des enseignants n'est pas le même. Les enseignants plus jeunes et les moins expérimentés se retrouvent souvent dans les zones les plus difficiles. Tandis que dans les autres établissements se retrouvent les enseignants les plus expérimentés. Ce qui peut aussi expliquer leur différence de perception. Mais surtout, le plus important, c'est que il y a dans les établissements, on va dire pour aller vite, type centre-ville, un isolement de l'enseignant qui est bien plus grand et souvent dramatique. Car les enseignants qui rencontrent des difficultés dans ces établissements n'osent en parler à personne, voire sont particulièrement mis à l'écart et stigmatisés, alors que dans les établissements d'éducation prioritaire, on va dire, il y a bien plus souvent de réels collectifs de travail, une solidarité, une collégialité aussi avec la direction qui n'existe pas ailleurs. Donc les enseignants peuvent, là, dans cet environnement de travail-là, trouver des points d'appui qu'ils ne trouvent pas de la même façon ailleurs, ou disons qu'ils trouvent plus rarement ailleurs. Donc, c'est pour ça que je conclurai en disant qu'il y a un seul métier, et ce métier, il est en crise, et c'est notre point de vue avec le collègue avec lequel j'ai fait la grosse enquête dont je parlais tout à l'heure, un métier en crise, mais une crise qui n'est pas de l'ordre de la crise de nerfs ou de la crise cardiaque, mais qui est de la crise créative, de la crise de redéfinition. Lors d'une crise, c'est le moment où les points de repère sont redéfinis, les équilibres sont redéfinis. Et la question qui nous semble être posée actuellement, c'est la question de comment les enseignants eux-mêmes entrent en débat avec la société, entrent en débat entre eux pour être contributifs dans le cadre de cette crise et pour participer à la redéfinition du métier et non pas se la faire imposer de l'extérieur et la subir en victime. Et ce travail de mobilisation, qui est un travail de mobilisation à la fois sociale et professionnelle, de façon non défensive, non pas pour défendre uniquement ce qui existait, mais pour dire à la fois la beauté et l'importance du métier, qui tout de même ne fait rien moins que former les petits de l'homme à s'intégrer dans la société, à intégrer la commune humanité, c'est quand même, ça vaut autant que de fabriquer tout un tas de choses. Et cette espèce de fierté du métier qui est à reconstruire actuellement et qui serait un bon antidépresseur dans un contexte pas très réjouissant. Voilà, merci.